Bonjour à toutes et à tous, c'est la rentrée pour l'émission Voyage au fil des mots. Dominique a prolongé ses vacances d'un petit mois tout de même, mais bon, ça n'était pas pour rien. Elle a beaucoup travaillé pour vous durant cet été et revient aujourd'hui avec un très très beau cadeau. Bonjour Dominique.
Bonjour Agathe et bonjour aux auditeurs.
Ce très beau cadeau, c'est bien sûr une fable que tu as écrit pour nos auditeurs, quelques mots ?
Oui, bien sûr. Alors, j'ai écrit des contes parce que tu sais que je fais partie d'une association utopiaire où je m'occupe, entre autres, donc, de la partie théâtre pour les enfants. Donc, déjà, je suis amenée à leur écrire des petites scénettes, ce genre de choses. Et puis, quand même, ça déborde des fois. Effectivement, j'écris des contes également, des contes spectacles qui durent à peu près une quarantaine de minutes. Et à travers cette histoire, la dernière née, donc pendant cet été, on va parler d'un petit garçon, d'une dizaine d'années, qui est obligé d'aller passer ses vacances d'été chez son grand-père maternel parce que les parents sont très occupés, ils sont restaurateurs, n'ont pas beaucoup de temps, donc il est préférable pour Alexis, c'est son prénom à cet enfant, d'aller passer les vacances effectivement chez ce grand-père. Ce grand-père habite une maison presque isolée, enfin je dirais même très isolée au bout d'une lande, dans une presqu'île, on ne citera pas, on laissera la magie opérer pour l'imaginaire des enfants. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle est au bord d'une falaise abrupte, où il y a souvent une mer déchaînée, et qu'en haut de cette falaise se trouve un vieux château médiéval en ruine. Alors bien sûr, il part chez son grand-père en se disant une dizaine d'années, isolé, qu'est-ce que je vais faire ? Et en fait, ça va être le plus magnifique été qui passera. Il va vivre des aventures une particulièrement avec une découverte extraordinaire, une découverte que chaque enfant souhaite dans sa tête finalement, avec un monde étrange, un monde qu'il ne connaît pas. Et j'espère que ce récit va pouvoir faire voyager. Un récit que j'ai voulu à morale écologique un peu, puisqu'on parle beaucoup de tout ce système marin qui va plus ou moins bien. Donc, comme tu le comprends Agathe, on va parler de la mer, on va parler du monde sous-marin, et en particulier d'une... Je ne dis pas. Tiens, voilà, on va laisser les auditeurs l'écouter, ils découvriront.
Alors, tu as si bien campé le décor qu'effectivement, on a hâte de se plonger dans l'atmosphère mystérieuse de ce conte un peu initiatique aussi. Et ça commence bien sûr en musique, Alexis, et le secret du château. On te laisse la parole, Dominique. Thank you.
Alexis et le secret du château. Je vais vous raconter l'histoire extraordinaire d'Alexis, un petit garçon au caractère bien trempé. Tout a commencé aux vacances d'été, une saison terriblement contraignante pour les parents des garçons. Restaurateurs de métier, l'été est une période très chargée pour eux. Absorbés la plupart du temps par leur travail, il ne leur restait que très peu de disponibilité à consacrer à leur fils. Aussi était-il préférable pour tous qu'Alexis passe ses 2 mois chez un de ses grands-parents, en l'occurrence Albert, son grand-père maternel. Albert, pêcheur professionnel à la retraite, avait exercé son métier sur un petit chalutier, le Gilou, qu'il tenait lui-même de son père. Il avait su garder l'allure d'homme de mer, casquette rivée sur la tête, éternelle pipe qu'il ne fumait plus, mais qu'il conservait comme un porte-bonheur dans la poche d'une salopette usée. Il vivait seul, depuis la mort de son épouse, dans une maisonnette au toit de chaume, à l'extrémité d'une lande battue par de terribles rafales de vent. Au bout de cette lande, une falaise abrupte, surplombant un océan déchaîné, dont les vagues s'écrasaient avec force et violence contre ses parois. Mais le plus surprenant dans ce paysage, c'était la forme imposante d'un vieux château médiéval en ruine, dressé en haut de cette falaise dangereuse. L'endroit semblait abandonné, et aussi loin où pouvait se porter le regard, impossible d'apercevoir la moindre trace de vie humaine ou animale. Albert ne savait pas s'il devait se réjouir ou non de la visite de son petit-fils. Il n'avait plus trop l'habitude de côtoyer des enfants et Alexis, parfois, était un peu intrépide. Mais c'était le seul enfant de sa fille qu'il ne voyait plus beaucoup non plus, alors la fibre paternelle agissait quand même. Alexis saurait-il accepter finalement les us et coutumes de ce grand-père qu'il connaissait si peu? Bon, de toute façon, il fallait en passer par là. Il verrait au jour le jour lequel apprivoisera l'autre, sachant tout de même qu'il n'avait pas l'intention de se laisser mener par le bout du nez. La fenêtre de la chambre d'Alexis donnait justement sur le château. En scrutant à l'aide d'une paire de jumelles les contours, il aperçut une bannière flottant au sommet d'une tour. Mais pourquoi une bannière se trouvait-elle accrochée là, si personne ne vivait plus dans cet endroit sinistre? Et quelle était cette étrange lueur, apparaissant, puis disparaissant, semblant jouer à cache-cache à travers les ruines? Tout semblait indiquer la présence de quelqu'un. Le petit garçon était intrigué, son grand-père lui ayant affirmé que depuis une bonne cinquantaine d'années, l'endroit était déserté. Il voulait une réponse et, comme ce n'était pas auprès de son grand-père qu'il l'obtiendrait, demain matin, il se rendra là-bas pour voir. Au premier rayon de soleil, Alexis était déjà prêt à descendre déjeuner, ce qui étonna quelque peu son grand-père, lui qui pensait être tranquille une bonne partie du matin. Ça lui parut un tant soit peu compromis. « Tu es déjà debout? Tu ne fais donc pas la grasse matinée? » « Oh, j'ai des trucs à faire !» répondit Alexis. « Des trucs? Quel truc? Tu viens à peine d'arriver !» Pour toute réponse, il n'entendit que le gloups-gloups d'un chocolat descendant goulûment au fond d'un gosier. Quand il eut reposé son bol, le petit garçon se leva rapidement de sa chaise et planqua discrètement à l'angle du buffet son sac à dos, dans lequel il avait déjà glissé une lampe de poche, un briquet, son appareil photo, une serviette et une gourde remplie discrètement au robinet de la salle de bain. Il ne lui restait plus qu'à se préparer un peu de nourriture. Mais comment faire sans être vu? Pas facile! Albert était toujours dans la cuisine. Il fallait trouver une solution. En effet, il ne pouvait pas lui dire qu'il allait seul explorer les ruines, il connaissait d'avance la réponse. Non, il devait trouver une autre explication afin de justifier la nécessité de prendre un goûter. Alors qu'il se creusait les méninges, la solution vint de son grand-père lui-même. « Alexis, tu es grand maintenant, je peux te faire confiance. Il faut impérativement que je retourne en ville. Ça m'embête de t'emmener, je vais dans des lieux pas très drôles pour des enfants. Alors tu vas rester ici. Oh, je serai de retour vers midi. » J'ai déjà préparé le déjeuner. Si j'ai un petit peu de retard, ben tu pourras commencer sans moi. Il y a de la salade, du poulet froid, des fruits, un gâteau. Qu'en penses-tu? Tu t'en sortiras? Quel joli discours! Juste ce qu'il voulait entendre. Mais Alexis ne laissa rien paraître. Oui, grand-père, ne t'inquiète pas. Comme je te l'ai dit, j'ai des trucs à faire. Ah oui? Et tu ne m'as toujours pas dit quels étaient ces trucs? À chaque rentrée scolaire, je dois faire un devoir dans lequel il faut raconter une journée de vacances. Alors, afin de ne rien oublier, je vais photographier à des heures différentes un paysage.
C'est une drôle d'idée, mais si ça peut t'aider,
Par contre, je ne veux pas que tu t'éloignes. Il faut être très prudent dans la lande. Reste toujours à portée de vue de la maison. Promis ? Je te le promets, répondit Alexis en évitant soigneusement le regard de son grand-père. Aussitôt Albert parti, Alexis se confectionna un énorme sandwich, le rajouta dans son sac à dos et se mit en route en direction du château. Après tout, il voyait ce château de sa chambre. Donc, il était forcément à vue de la maison. Ainsi, il respectait le souhait de son grand-père. Enfin, presque. Il se sentait tout à la fois excité et angoissé. Le remords de ne pas avoir dit la vérité à Albert ? Ou allons, disons le mot, la frousse de qu'est-ce qu'il pourrait découvrir dans ses ruines ? Toutefois, il se mit en route. Après avoir traversé, non sans une certaine appréhension, la passerelle menant à la première cour, il réalisa qu'il ne restait pratiquement rien des bâtiments d'origine, à part la tour du donjon, bizarrement très bien conservée. Faisant figure d'exception, elle se dressait majestueusement au milieu d'innombrables amas de pierres. Il avança prudemment vers cette tour, bien décidé à y pénétrer. Hélas, devant l'énorme porte en bois, solidement fermée par un monstrueux cadenas aussi gros que sa main, Alexis comprit qu'il n'arriverait pas à franchir cette porte. Il entreprit alors de faire le tour de cet édifice. Juste derrière, à environ 2 mètres sur le côté, une espèce de monticule de planches intrigua, allez savoir pourquoi, notre jeune garçon. Sans bien comprendre ce qu'il guidait, il alla s'asseoir un peu plus loin au pied du mur d'enceinte. Inquiet et surtout curieux, il n'arrivait pas à détacher son regard du tas de planches enchevêtrées. Combien de temps resta-t-il là, sans bouger, à guetter ? Guetter quoi d'ailleurs ? Il ne le savait pas lui-même. Toujours est-il que le soleil était bien bas lorsqu'Alexis sortit de sa torpeur. Eh oui, il n'avait pas beaucoup dormi la nuit précédente à échafauder cette escapade. Au moment où il allait se relever, un craquement sec le fit sursauter. Ça venait du tas de planches. Puis, au travers de ses entassements, une lueur vacillante apparut. Le cœur d'Alexis frappait à grands coups. Sa gorge se noua. La lumière, d'abord très vive, s'atténua rapidement. Alexis ne bougea pas d'un pouce. Puis soudain, la lumière réapparut, mais cette fois à l'intérieur de la tour. Le plus silencieusement possible, il s'approcha de l'édifice. Au même instant, un vent violent se leva. Mais enfin, comment ? Comment cela était-il possible ? Qui était là ? Mais comment avait-on pénétré ? Le cadenas était toujours fermé. En pleine interrogation, le son puissant d'une corne de brume le ramena à la réalité. Ah ! L'heure ! Quelle heure était-il ? Oh ! Il avait oublié l'heure, oublié de rentrer, oublié son grand-père. L'éloignement, le sifflement du vent toujours présent rendait impossible un appel normal. C'est donc avec cet instrument qu'Albert, fou d'inquiétude, appelait son petit-fils. Alexis n'avait pas le choix, il devait rentrer. Le plus discrètement possible, il quitta à regret le château. L'accueil fut assez rude. L'inquiétude avait donné un ton bourru aux paroles de son grand-père. « Mais où étais-tu donc passé ? Tu as vu l'heure ? Tu oublies que je suis responsable de toi. S'il t'arrivait quelque chose, ta mère ne me le pardonnerait jamais. » En fait, il n'osait s'avouer que lui-même commençait à se culpabiliser de l'avoir laissé seul ce matin. « Il ne fallait pas du tout t'inquiéter. Je t'ai dit que je devais faire des photos pour mon devoir. Voilà, j'étais tellement absorbée et passionnée par ce que je voyais, je ne me suis pas rendu compte. « Oh, excuse-moi, grand-père, » répondit malicieusement Alexis. « Bon, bon, allez, va te débarbouiller et ensuite on passera à table. Tu dois avoir une faim, telle après une balade comme ça. » Une drôle d'atmosphère accompagnait le repas. Chacun observait l'autre du coin de l'œil sans oser interrompre le silence. Quand Alexis se décida enfin, « Grand-père, Si je te promets de rentrer avant 18h, dis demain. Tu pourras me laisser retourner faire d'autres photos. Je ferai très attention. Et que photographies-tu? Ça a l'air de prendre beaucoup de temps. Je fais de la macro-photo. Je photographie de toutes petites choses. Des fleurs, des insectes. Et d'ajouter, c'est pour ça que ça prend autant de temps. Il faut être très précis. Ah bon? Tu me montreras? Pas de problème. Quand tout sera terminé, je te le jure. Mais j'ai encore d'énormes travaux à faire. En fait, Alexis se cherchait des excuses. Il avait besoin de journées de liberté, car il comptait bien retourner au plus tôt au château. Il voulait savoir. Cette fois, sous un orage menaçant, Alexis se dirigea directement vers la porte de la tour. Mais elle était toujours cadenassée, et c'est en arrivant au tas de planches qu'il eut une idée. La lumière aperçue hier venait bien de quelque part. Et à n'en pas douter, il y avait quelque chose là-dessous. Malgré le tonnerre et les éclairs, il se mit à soulever une, puis deux planches, retira quelques pierres qui calaient le tout et s'aperçut qu'effectivement, il mettait à jour un escalier. La curiosité prit le pas sur la crainte et il commença à descendre une vingtaine de marches. Elles aboutissaient dans un couloir taillé directement dans la roche. Il alluma sa lampe de poche et s'engouffra dans le corridor. Quelques mètres plus loin, une porte entrouverte. Devait-il la franchir, s'enfuir? Pas un bruit, pas une lumière ne franchissait l'entrebâillement. Sur ses gardes, Alexis éteignit sa lampe et poussa la porte. Rien. Le noir complet. Le cœur battant, il attendit un court instant, mais qui lui parut une éternité, et ralluma sa torche. À l'intérieur de la tour régnait un certain désordre, mais on comprenait aisément que cette pièce avait été occupée. Elle devait se trouver juste au-dessous du hall d'entrée, mais l'accès qui permettait de rejoindre l'étage supérieur, en l'occurrence l'entrée de la tour, était complètement écroulé. Sur une très longue table centrale se côtoyait une multitude de fioles de toutes formes, une sorte d'alambic, des pots en terre d'où dépassaient des branches sèches. Sur un fauteuil à moitié cassé se chevauchaient de gros livres genre grimoire. Hélas, trop vieux et trop brûlé pour être lisible. Ça lui fit penser à un laboratoire, un peu comme celui illustré dans la bande dessinée Merlin l'Enchanteur. Mais ici, il y avait eu un incendie, ça c'était certain. Tout était encore noir de suie. Alexis était tout à sa découverte lorsqu'un grincement se fit entendre. Aussitôt, il se glissa à l'intérieur d'un coffre assez grand qu'il avait aperçu en entrant dans la pièce. Referma le couvercle, éteignit sa lampe et attendit. Quelqu'un était entré dans la pièce. Au cliquetis de verre qui s'entrechoque, Alexis comprit que ce quelqu'un fouillait dans les fioles sur la table. Il pouvait même entendre le souffle rauque et puissant de ce quelqu'un. Il avait si peur, son cœur, cette fois, c'est sûr, allait exploser. Laissé à la place d'une ancienne serrure, lui permit de voir un peu. Et ce qu'il vit, mon Dieu, mais comment est-ce possible? Pris de panique, sans réfléchir, il se dressa d'un bond droit dans son coffre face à la chose. La chose, quant à elle, dans un sursaut de frayeur, tomba à la renverse, sur le dos, gesticulant mais ne pouvant se relever. Et pour cause. Cette chose était une énorme tortue marine. Couchée sur sa carapace, elle ne pouvait se redresser seule. Alexis ne savait plus où il en était, mais il voyait bien, malgré son trouble, que cette tortue, aussi terrifiante soit-elle, avait besoin d'aide. Se ressaisissant, bravant sa peur, il s'approcha d'elle, main en avant. Elle poussa un cri, figeant Alexis sur place. « Non, je t'en prie, ne t'approche pas !»« Comment ? Elle parle ?» Non, Alexis devait être en plein rêve, ce n'était pas possible, ce n'est qu'une bête, et les bêtes ne parlent pas, ou les perroquets, et encore. Les jambes d'Alexis se dérobèrent sous lui, il s'écroula au sol. À son tour hébété, il murmura, « Mais comment est-ce possible? Vous parlez? Oh, je ne voulais nullement t'effrayer. Mais qui es-tu? Que fais-tu dans mon château? » « Son château? Bon, Une tortue n'habite pas de château, d'autant une tortue marine. La lumière, c'est vous? C'est vous qui venez au château? Oh, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Vous parlez vraiment? S'il vous plaît, vous voulez bien m'expliquer? Tant bien que mal, la tortue se retrouva son équilibre. Elles restèrent un moment sans bouger, se fixant. Le regard de chacun trahissant la stupeur, l'inquiétude, mais surtout la curiosité. Puis observant un léger recul de la tortue, Alexis lui dit « Ne partez pas. Oh, je ne vous veux aucun mal. Je veux simplement comprendre. » « Comprendre quoi, jeune homme? Pour tout avouer, moi aussi, j'aimerais avoir une explication sur ta présence ici. Alors je te le redemande. Qui es-tu? Je suis Alexis, le petit-fils d'Albert. Celui de la maison sur la lande ?» interrompit la tortue. « Oui. Vous connaissez mon grand-père? Oh, je l'aperçois parfois, mais évidemment, on ne s'est jamais rencontré. » Alexis timidement lui posa une question. « Et vous, qui êtes-vous ? » « Je me nomme Philomène. » Elle marqua un temps. « Oh, je suppose que tu aimerais en connaître un peu plus. »« Évidemment, ce qui arrive est tellement extraordinaire. »« Oui, c'est ça, extraordinaire, » dit-elle dans un soupir de lassitude. « Mon grand-père m'a affirmé que ce château était inoccupé depuis très longtemps, et à en voir l'étage, les crues. Hors de ma chambre, j'apercevais de la lumière, alors il fallait que je sache. » Curieux, hein? Curieux et téméraire. Apparemment, rien ne te fait vraiment peur. » Avalant sa salive, se redressant, bombant légèrement le torse, il répondit avec une certaine arrogance. « Non, rien en effet. » En es-tu bien certain? » Cette phrase, chargée de sous-entendus, déstabilisa quelque peu l'assurance de notre garçon. « Que voulez-vous dire? Si je te faisais découvrir des choses insoupçonnées et qui pourraient bien ébranler tes certitudes, es-tu sûr d'avoir assez de courage pour les affronter ?» Là, Alexis resta bouche bée. De quoi voulait-elle parler ? Ah, tu ne réponds rien. C'est-à-dire, tout ça est tellement surprenant. Alexis baissa la voix comme si quelqu'un pouvait l'entendre. Mais je veux bien découvrir ce que vous dites. Tous deux étaient maintenant assis face à face. « Très bien, alors je vais te raconter un peu de mon histoire, mais ne m'interromps pas, même si certains passages te semblent ahurissants. » Et Philomène commença. « Il y a cela bien des années, j'étais l'épouse du seigneur de ce château, le seigneur Woodley. Des rivalités nous opposaient quelquefois entre clans de la région, mais cela n'était jamais bien dramatique. Jusqu'au jour où surgit de nulle part le cavalier noir. » La voix de Philomène se fit plus dure. Personne ne connaissait son véritable nom. Nous l'avons surnommé ainsi, car son armure, sa monture, tout était couleur de la nuit. Très cruel de nature, il a su, à ses cruautés, y ajouter la sorcellerie. D'étranges pouvoirs le rendaient invisible. Mais le plus terrible, c'est qu'il avait réussi à faire ressurgir des ténèbres, un monstrueux animal, un horrible dragon. Même avec les plus vaillants chevaliers, nous n'étions pas de taille cette fois. Il tua mon très cher époux, changea en pierre tous nos compagnons d'armes. Quant à moi, il me fit boire une potion me transformant ce que tu vois devant toi, une tortue marine, et crut bon d'ajouter qu'il me laissait, si toutefois je réussissais à le trouver, un antidote. Sans plus de précision, il me conduisit par le souterrain à mon nouveau domaine, la mer. Il riait pendant que son impitoyable dragon brûlait mon magnifique château. Philomène marqua un temps. Une larme coulait sur sa joue. Alexis n'osait poser toutes les questions venues en tête pendant le récit. Il était ému. Tout cela était si fort qu'en regardant Philomène, il ne voyait plus une tortue, mais une jeune femme éperdument malheureuse. L'antidote, vous ne l'avez pas trouvé? Non. Et pourtant, je reviens ici le plus souvent possible, chercher parmi toutes ces fioles, espérant trouver la formule cachée quelque part. Donc la lumière, c'était pour ça? Oui. Et tant que je ne trouve pas, je dois retourner vivre en mer. Vous devez vous sentir bien seule? Oui et non. Oh, bien sûr, ce monde me manque terriblement. Ma vraie vie est ici, sur terre. Là-bas, au fond de la mer, j'ai une nouvelle demeure et je suis entourée de très gentils compagnons. Sans leur aide, je ne sais pas ce que je serais devenue. Quelle demeure? Et de quels compagnons parlez-vous? Répondit Alexis, de plus en plus étonné. Les dauphins? Ils m'ont tout appris du monde sous-marin. Ils me protègent, me guident. Oh, d'ailleurs, ils doivent m'attendre. Comment ça, vous attendre? Inquiet pour moi, chaque fois, ils m'accompagnent jusqu'à l'entrée de la route, en dessous du château. Elle s'arrêta un instant, observant la réaction du garçon, puis reprit. Tu aimerais sans doute les rencontrer. Quand je t'ai parlé de te faire voir des choses qui pourraient t'étonner, je pensais à te faire découvrir mon nouvel environnement. Complètement déconcerté, Alexis ne put répondre quoi que ce soit à cette proposition inattendue. Quel silence ! Je comprends, tu as du mal à me croire. Pourtant, je t'assure, cela est très possible. Mais de quelle manière ? Trancha Alexis. Je n'ai pas de matériel de plongée. Tu n'en auras pas besoin. Pas besoin ? Mais si je veux aller sous l'eau ? En se rapprochant doucement, lui dit « Il te faut simplement avoir confiance et un peu de courage. Crois-tu avoir les deux ?» Complètement désorienté, Alexis ne laissa rien transparaître. Il ne voulait pas passer pour une mauviette, une poule mouillée. N'évaluant pas bien l'enjeu de sa réponse, il lança presque dans un cri « Pour sûr, il n'y a aucun problème !»« Parfait, puisque j'ai ta confiance, je veux que tu me fasses une promesse. » Tout ce que tu verras et feras à partir de maintenant sera ton plus grand secret. Jamais tu ne révéleras le moindre détail de cette découverte. Maintenant, nous allons descendre par le souterrain jusqu'à la mer. Alexis saisit son sac et suivit la tortue. Pour accéder à la salle du château, il avait pris à droite dans le corridor. Mais cette fois, Philomène tourna à gauche. C'était beaucoup plus étroit et les escaliers étaient nettement plus dangereux. Pendant un moment, il fut même obligé de se baisser, tellement le passage était rétréci. Après avoir marché dans une certaine obscurité, tous deux débouchèrent subitement dans une sorte de grande salle, une cavité naturelle, avec d'énormes stalactites accrochées au plafond, à l'allure menaçante, telles des épées prêtes à fondre sur eux. La mer venait doucement s'écraser sur les dernières marches. « Tu vas m'attendre ici, je n'en ai pas pour longtemps, » déclara Philomène. « Mais où allez-vous ? » répliqua Alexis, pas très rassuré. « Cherchez ce qui te permettra de me suivre. » Elle plongea et disparut. Malgré une température ambiante agréable, Alexis trembla un peu. Il ne voulait pas se l'avouer, mais il avait peur. C'est normal après tout. Ce n'est qu'un petit garçon, admettons-le. Nous-mêmes à sa place, je ne suis pas sûre que nous réussirions à montrer autant de courage. Philomène réapparut et tendit à Alexis un coquillage. Un coquillage qu'il n'avait jamais vu, même dans les livres de sciences naturelles. « Mon garçon, c'est le moment de me prouver ta confiance et ton courage. Tu vas avaler le contenu de ce coquillage. » Il a le pouvoir de te permettre de voyager sous l'eau sans aucun problème. Tu vas devenir un véritable dauphin. C'est d'ailleurs grâce à eux que je connais les pouvoirs de ce coquillage particulier. Ne crains rien, cela n'agit que quelques heures. Aucune conséquence pour ton organisme. Ensuite, tu reprendras ta vie de terrien. Es-tu prêt à vivre cette expérience? Et comment? Être le seul humain à évoluer sous l'eau de cette manière? Partager un moment aussi exclusif, c'était extraordinaire. Après l'avoir absorbé, il sentait juste un peu de chaleur lui parcourir les veines, son cœur ralentir doucement. Il était bien. Philomène l'entraîna dans l'eau et ils plongèrent l'un derrière l'autre. Au début, Alexis ne perçut pas grand-chose, puis sa vision s'éclaircit. Au fur et à mesure qu'il avançait dans cette mer inconnue, il s'émerveillait devant tant de beauté. Avec son masque et son tuba, il n'avait jamais plongé aussi profond. Les centaines de poissons aux formes et aux couleurs étonnantes s'amusaient à lui passer par-dessus, par-dessous. Des coraux, des algues aux aspects incroyables semblaient danser sur son passage. Il avait vu des reportages à la télé, mais pas avec ce qu'il y avait là, sous ses yeux. Quelle splendeur! Oh, il était à l'aise, évoluait avec grâce et agilité dans ce milieu d'ordinaire hostile, surtout à cette profondeur. Puis quelque chose effleura. Il se retourna brusquement. Trois dauphins lui faisaient face. Ils semblaient, non pas curieux, mais plutôt amusés de la situation. Philomène poursuivait son chemin. Elle semblait guider Alexis vers un endroit précis. Ils traversèrent un passage étroit entre deux rochers dont les parois semblaient monter jusqu'à la surface. Philomène s'engouffra dans une cavité d'où s'échappaient des bulles, comme des bulles d'air. Alexis suivit. Les trois dauphins restèrent à l'entrée, tels des sentinelles. Une fois l'entrée franchie, il se retrouva dans un espace sans eau, comme une caverne. Un champ magnétique empêchait l'eau de pénétrer. « Où sommes-nous ? » demanda Alexis. « Un sanctuaire, l'endroit où je vis et où j'aide comme je le peux mes amis de la mer. Ils trouvent ici un peu de repos, mais c'est si peu au regard des besoins. Je ne comprends pas, Philomène, ce que vous voulez dire. Vois-tu, depuis quelque temps, les poissons, les mammifères blessés ou malades sont plus nombreux, et je ne comprends pas pourquoi. J'ai beaucoup de travail. » Je soigne leurs maux du mieux que je puisse le faire, mais c'est insuffisant au vu de l'immensité des océans. Alexis perçut beaucoup de détresse dans les paroles de Philomène. Il voulait l'aider, mais ne savait pas comment. « Oh, j'aimerais vous soulager un peu, mais je ne connais rien du tout du monde marin, ou si peu. Ne t'inquiète pas, va. » Philomène réfléchit puis dit. « Sur Terre, je trouverai peut-être les raisons et les remèdes à ces malheurs. C'est pour cela aussi que je veux redevenir humaine. » « Je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus. » Alexis ne répondit rien. Il avait bien sa petite idée sur ces fameuses raisons. Cependant, il n'était pas sûr que Philomène soit prête à les entendre. Comment lui expliquer que les hommes avaient changé, les moyens avaient changé, tout s'était accéléré et que c'était sans doute une des raisons de ces bouleversements. Ici, le calme et l'harmonie régnaient en maître. Oh, il y avait bien les histoires avec les requins et autres prédateurs, mais c'est ça aussi la mer. Non, cette fois, c'était plus inquiétant. Pour l'instant, Philomène faisait les présentations d'usage avec les poissons en convalescence, dans des bassins aménagés directement près des rochers. Elle leur parlait, ils avaient l'air de comprendre, sans pour autant avoir l'usage de la parole, bien évidemment. Impressionné sans doute par la présence d'Alexis, un gros poisson-bulle aux yeux globuleux sauta hors de son lit improvisé. Philomène trouva les mots pour le rassurer et le remit dans son berceau de fortune. Des étoiles de mer firent une haie d'honneur à notre tortue. Quel accueil ! Philomène s'attarda au-dessus de chaque enclave, offrant des attentions particulières à ses protégés. Quelle complicité, que d'amour, de patience. Quelle leçon de vie. Ils passèrent ainsi un long moment de calme et de sérénité. L'effervescence bouillonnait dans la tête d'Alexis. C'était trop de bonheur. Philomène revint contre lui et tout en glissant sa nageoire dans la main de son nouvel ami lui dit « Je vais te reconduire. Il te faut reprendre le cours normal de ta vie. Le coquillage va bientôt cesser son action. »
« Oh non, pas déjà. Je n'ai pas envie de vous quitter comme ça. »
« Il le faut, mon ami. Ici, tu ne peux pas vivre. »
« Mais si vous me donnez des coquillages, je pourrais rester ou revenir souvent. »
« Je n'en ai pas le droit. Tu ne pouvais bénéficier que d'un seul coquillage. » Empli de tristesse, à contre-cœur, il précéda Philomène. Elle se retournait souvent voir s'il la suivait. Alexis n'avait pas le choix, de toute façon. Arrivés à l'entrée souterraine du château, ils s'assirent l'un à côté de l'autre, fixant les marches qu'ils n'avaient pas envie de remonter, reculant le plus longtemps possible leur séparation. Pourtant, il le fallait. Et rassemblant tout son courage, le plus affectueusement possible, il lui expliqua.
« J'ai vu tout ce que tu apportes à ce monde marin, et je pense que ta place est très importante parmi eux. Tu les comprends, tu sais les aider. Si tu reviens sur Terre, tu trouveras tant de changements, tu n'arriveras pas à faire aussi bien. Ton malheur a fait leur bonheur. Si tu réfléchis un peu, tu réaliseras que j'ai raison. Par contre, moi, je vis dans ce monde un peu fou. J'apprendrai, je te le promets, j'apprendrai tout ce qu'il faudra pour que le regard de ces humains change. Avec ce que tu viens de me donner, cette chance que tu m'as offerte, je vais tout faire afin que vous puissiez vivre dans la sérénité et l'harmonie le plus longtemps possible. »
L'émotion submergeait ces deux êtres, un petit garçon et une tortue. Cela existait-il vraiment ? Oui, cela existait réellement. Le moment tant à douter arriva. Ils se séparèrent. Elle ne chercherait plus cet antidote. Alexis avait raison, elle avait trouvé sa place. Malgré cette aventure, le petit garçon réussit de justesse à être de retour chez son grand-père à l'heure dite. Il brûlait d'envie de partager son lourd secret. Mais une promesse est une promesse. Jamais il ne trahirait son amie Philomène. La première chose qu'il fit de retour chez ses parents, c'est d'expédier une série de macrophotos, l'alibi justificatif de ses escapades. Elle n'était pas extraordinaire, on s'en serait douté. Ses préoccupations étaient alors ailleurs.
Albert, quant à lui, n'y connaissant rien, les trouva évidemment formidables. Chaque année, lui avait-elle promis, à la date anniversaire de leur rencontre, elle reviendrait. Et chaque année, ce fut de merveilleuses retrouvailles. Ils avaient tant à se raconter, et si peu de temps. Ils pouvaient tout lui dire. Elle l'écoutait en souriant. Il lui racontait la terre. Et pour ne pas lui briser le cœur, car elle aussi avait été humaine, il ne lui disait rien des guerres et autres vilainies des hommes. Ce n'était pas vraiment lui mentir, c'était la protéger. Ce fut ainsi tous les étés jusqu'à son entrée à l'université, où il entreprit de grandes études et n'eut plus l'occasion pendant de nombreuses années de revenir. Mais Philomène le savait, ce n'était pas parce qu'il l'avait oublié, non. C'était simplement le tourbillon de la vie. Alexis a grandi. C'est un homme maintenant. Régulièrement, il revient dans la maison que son grand-père lui a léguée. C'est son havre de paix. Lui aussi a tenu sa promesse. Il fait une carrière internationale dans le domaine maritime. Devenu professeur en biodiversité marine, il est chargé de la protection des espèces végétales et animales. Toujours entre deux avions, trois conférences, deux hôtels, une vie trépidante qui change du calme de la lande. Un jour, un promoteur a voulu racheter le château pour en faire un complexe immobilier. Alexis s'y est opposé, a réuni tout l'argent qu'il possédait afin d'acquérir ses ruines. Il n'aurait jamais permis à qui que ce soit de toucher à ce sanctuaire, l'endroit où toute sa vie a été bouleversée, là où tant de souvenirs et d'amitié avaient su le combler. Et souvent le soir, on croit apercevoir une lueur dans les ombres du château. C'est tout simplement Alexis qui va s'asseoir aux abords de la tour et attend. Qui sait ? Elle reviendra peut-être, et cette fois, il sera là.